Donc, ça m'a invité, merci, pour parler de la prière. La prière, en même temps, nous avons une pratique de la prière, une expérience de la prière. On sait que la prière est quelque chose que nous connaissons, que nous pratiquons, et qu'il y en a autre chose à découvrir. Peut-être nous allons cheminer pour voir comment la prière est transmise d'abord, comment elle est pratiquée, et ensuite comment elle peut nous conduire dans la profondeur de la relation à Dieu, parce que la prière est le mode de relation avec Dieu, un dialogue avec Dieu, c'est ce qui permet de pénétrer dans l'intimité divine. Donc la prière, c'est la clé du royaume, la clé de la relation avec le Christ, et c'est là où il est important d'approfondir toute la dimension liturgique, mais aussi la dimension mystique de la prière, que nous pouvons peut-être pratiquer à l'église, mais pas dans un mode qui permet d'accéder à la présence divine au cœur de nous. Tout d'abord, la prière est enseignée dans l'église, et la pédagogie de la prière est donnée dans l'église. Donc, c'est en venant à notre fils, en participant au début liturgie, on entre dans la prière. Cette prière, elle est inspirée de la Bible. Donc, dans la vie liturgique, nous avons des psaumes, des textes bibliques, et nous entrons par là dans la relation avec Dieu qui nous parle. Parce que par la Bible, Dieu vient à nous, s'exprime et se rend accessible à l'être humain, et l'être humain est invité à s'imprégner de la parole biblique, s'imprégnant de la parole biblique, à faire sienne la parole biblique et la restituer dans une réciprocité de relation avec Dieu pour faire que la parole biblique soit le langage même de la prière et de la relation avec Dieu, mais que ce ne soit pas simplement une répétition de paroles qu'on a apprises, mais comme si cette prière jaillissait spontanément de notre cœur. Donc ça demande d'abord une assimilation de la prière, parce que quand on dit vie liturgique, on dit en fait une vie liturgique régulière avec une assimilation et une imprégnation de la parole qu'on connaît par cœur. Et quand on la connaît par cœur et par le cœur, on peut aussi l'exprimer spontanément du cœur, et il s'agit que cette prière deviennent l'expression spontanée du cœur. Donc il y a trois étapes dans cet apprentissage. On vient à l'église et puis on participe à la prière, et on peut être simplement dans cette prière orale. Par exemple, on va dire Notre Père, et on va dire Notre Père qui est aux cieux, on est dans la prière orale. Donc c'est la prière qu'on va penser intellectuellement, qu'on va dire oralement, et on va exprimer les paroles de la prière. On doit passer à une deuxième étape, et la deuxième étape de la prière, c'est la prière intériorisée, la prière intérieure, c'est-à-dire la prière que l'on va habiter de telle manière que on va s'exprimer à Dieu dans la conscience que Dieu est présent au milieu de nous, qu'il nous entend, et elle va être un mode d'introduction dans la relation avec Dieu, qui est sa finalité. La prière a pour finalité de nous introduire dans la relation avec Dieu et faire qu'on pénètre une intimité, et par là qu'on vive une expérience de la présence divine en nous. Donc il y a une dimension ici de la profondeur de la prière, et donc c'est au sein de la vie liturgique que nous pouvons pénétrer davantage la dimension de la prière en la faisant nôtre, et en devenant prière, si je puis dire comme ça. Donc il ne s'agit pas de se contenter d'être simplement participant de la divine liturgie, Il s'agit de pénétrer la profondeur de ce qui se vit dans le temps liturgique pour faire de ce temps la possibilité d'une relation personnelle avec Dieu au sein de la liturgie. Père Placide de Sales, que vous connaissez et qui était quand même une référence spirituelle, disait en fait la vie liturgique est faite pour soutenir la prière personnelle de chacun. Il ne s'agit pas simplement d'être rassemblé et de participer à une divine liturgie, il s'agit d'être régénéré dans sa vie de prière personnelle. C'est pour ça qu'on vient à l'Église. On vient à l'Église pour être restimulé dans notre élan de prière et qu'ensuite, quand on sort de l'Église, on ait le désir de temps de prière personnelle qui va prolonger le temps de prière liturgique et qui va aussi préparer la liturgie du dimanche d'après. Donc en fait, la prière ne devrait pas être pendant 2 heures le dimanche, mais devrait être toute la semaine et restimulée par la prière liturgique du dimanche. Donc, bien comprendre que la vie liturgique, ce n'est pas simplement un moment qui est plus intense que l'on vit et qui va résumer la vie chrétienne de la semaine, c'est une stimulation dans la vie de prière de chacun, pour que chacun puisse entrer dans cette relation intime avec Dieu qui va nourrir sa vie quotidienne et faire que, par la prière, on entre dans un autre mode de vie. Donc, je trouve très important ici de préciser que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement une participation à la vie liturgique. La vie chrétienne, c'est vivre avec le Christ. Et vivre avec le Christ suppose qu'il y ait des moments de relation intime avec le Christ qu'on appelle la prière. Donc la prière liturgique communautaire stimule la prière personnelle et évidemment le fidèle est invité à avoir des temps particuliers de prière, mais aussi que cette prière l'habite au quotidien, dans la vie de travail, dans la vie de famille, dans la vie sociale, etc. Et que, en fait, on soit en présence du Seigneur Jésus en tout temps, toutes circonstances. Il y a notre évêque Siloane, qui est l'évêque d'Italie, qui disait, comme ça, d'une manière simple, mais pas simpliste, hein, il disait, je vais au supermarché, et je dis, Seigneur, je t'emmène au supermarché. Je vais à la pharmacie, Seigneur, je t'emmène à la pharmacie. Et donc, c'est ça la prière, c'est entrer dans un mode de relation. C'est pas simplement dire des prières, c'est entrer dans un mode de relation pour dire « Seigneur, je sais que tu es présent et je vais m'exercer à être présent à ta présence et à vivre en ta présence et à marcher en ta présence. » Marcher en ta présence. Donc la prière, c'est une action liturgique d'abord, c'est une prière personnelle ensuite, c'est ensuite un mode de relation dans lequel on entre et ça nous amène à être dans ce monde, mais dans la profondeur du cœur, être avec Jésus au cœur de ce monde. Donc ça nous place dans un mode de vie, dans un mode de relation, et c'est cela qui va amener toute la transformation de l'existence. Parce que, comme le Christ dit dans l'Évangile, il dit « mon joug est doux, mon fardeau léger ». Joug est doux, mon fardeau léger. C'est quoi le joug? C'est une pièce de bois qui relie deux bœufs. Donc il y a deux bœufs qui marchent comme ça, ils ont quatre pattes les bœufs, là, ils marchent comme ça. Et donc s'ils marchent en phase, alors qu'ils sont liés par un même joug, alors il y a quelque chose qui va être un balancement positif. Mais si jamais ils ne sont pas en phase, alors ça sera insupportable. Donc, le joug, ici, mon joug est doux, ça veut dire celui qui marche en phase avec moi, le Christ, le fardeau sera léger. Mais celui qui marche en phase avec le monde, le fardeau sera lourd. Donc, en fait, la prière, c'est marcher sous le joug du Christ, c'est-à-dire en phase avec le Christ, c'est-à-dire marcher avec le Christ. Donc, ce n'est pas simplement des prières que l'on dit, ce n'est pas simplement des prières que l'on fait, la prière... C'est un mode d'être en relation avec le Christ en permanence, qu'une prière soit formulée ou pas formulée. Donc c'est un mode de relation vivant et aimant avec le Christ. Et ce qu'on appelle la prière intérieure, qui est le deuxième degré de prière, c'est le fait qu'on ne se contente pas de formuler des prières ou de lire des psaumes ou de lire des passages d'écriture, mais on fait de ces passages-là une occasion de dialogue avec Dieu. Pour entrer dans une intimité et pour vivre sous le joug du Christ, c'est-à-dire en phase avec lui, et ça répercute sur le fait que quand on est dans son quotidien, on marche avec le Christ, et s'il y a une épreuve, au lieu de chercher à trouver la réponse par soi-même, tout de suite on dit « Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux de moi dans cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux me signifier dans cette épreuve ?» au lieu de se sentir démuni parce que livré à soi-même. On pourrait dire « Le chrétien, il est celui qui n'est jamais seul. » Parce que le Christ est avec lui, et c'est à lui d'être avec le Christ. C'est important de souligner cette dimension très concrète de la prière, parce que on voit bien dans l'usage de la vie chrétienne, on pense que on a son quotidien, le dimanche on vient à la liturgie, puis on recommence. Non, on ne doit pas considérer les choses de cette manière-là. On doit considérer les choses d'une manière dynamique, c'est-à-dire la liturgie pour redynamiser la vie de prière personnelle et ne pas quitter le fil. Il y a un père de l'Église qui a dit que si on ne quittait pas la relation à Dieu d'un dimanche à un dimanche, tout au long de l'année, on était un saint. Donc on voit bien qu'on échappe. Il y a des saints qui n'échappent pas. Mais ça veut dire que quand même la finalité, c'est celle-là. C'est le fait de tirer un fil, c'est-à-dire de vivre en présence de Dieu. Et il est important, et pour moi, je crois que c'est fondamental, d'expérimenter que si on progresse dans ce mode de relation, la vie change. Ça a vraiment un impact concret dans le quotidien. Il y a une autre manière de gérer le quotidien, une autre manière de gérer les relations, une autre manière de gérer les épreuves. Et donc, il y a quelque chose qui fera la différence entre être dans une pratique chrétienne ou ne pas être dans une pratique chrétienne. Parce que, comme dit le Christ, si nous sommes dans l'espérance uniquement, comme le dit saint Paul, pardon, espérance pour le monde à venir, notre foi est bien maigre. Notre espérance, elle est pour maintenant. Le Christ nous a dit, le royaume des cieux, il est maintenant présent. Et c'est là où nous avons à pénétrer cette relation par le mode de la prière, en nous appuyant sur les textes bibliques et les textes liturgiques, et peu à peu de vivre une intimité avec le Christ au-dedans. Maintenant, il y a plusieurs étapes. Au début, on balbutie et on est juste, voilà, on commence à s'imprégner. Puis après, on est habité par ces textes. Et puis ensuite, on entre dans cette communion à la présence du Christ, et puis, au fur et à mesure, c'est, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi, on est vécu par le Christ. Donc, on voit qu'il y a là tout un chemin d'approfondissement à vivre, et le Christ qui nous accompagne par différents modes de prière, et ces modes de prière sont donnés dans les psaumes. Il y a plusieurs... D'abord, je dirais, la première chose, c'est la Lectio Divina. Lectio Divina qu'on appelle lecture divine de la Bible. La lecture divine, où en fait, il ne s'agit pas tant d'étudier le texte biblique que de prendre un péricope d'évangile, comme nous est proposé le dimanche, par exemple, on prend un péricope. Il s'agit de restituer l'oralité du texte, c'est-à-dire le lire à haute voix, et de se laisser toucher par une parole. Donc se laisser toucher par une parole, ça signifie ici que Nous ne sommes pas dans un exercice intellectuel, mais est-ce qu'il y a dans cet évangile une parole qui me rejoint particulièrement? Et puis on se laisse toucher par une parole, on la laisse vivre à l'intérieur, on peut même la répéter, on peut même faire chaque matin comme exercice de prière, lire l'évangile du jour, parce qu'il y a des évangiles chaque jour, lire l'évangile du jour, le lire à haute voix, une fois, on se laisse toucher par une parole ou pas, on relit une deuxième fois, on se laisse toucher par une parole, et après on peut la redire toute la journée. Et on va laisser cette parole œuvrer, et comme dit le Christ, cette parole, ou comme dit le prophète Isaïe, plutôt, cette parole qui va travailler en moi ne revient pas sans effet. Elle va produire des effets, et c'est là où nous pouvons nous laisser imprégner d'abord, et puis nous laisser féconder par une parole. C'est ça le sens de l'Alexio Divina. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'Alexio Divina parce que j'ai trouvé très enrichissant, au lieu de lire une quantité de paroles, de se laisser toucher par une parole et de laisser l'Esprit Saint œuvrer en moi à propos de cette parole. Donc, ça, on peut faire facilement parce qu'on peut prendre 5 minutes, le temps, on invoque l'Esprit Saint, on dit notre Père, on lit la parole de l'Évangile, on se laisse toucher par une parole, et puis on peut partir dans les transports, etc., et on peut répéter cette parole au-dedans. Et donc après se laisser habiter par cette parole, la laisser œuvrer à l'intérieur, et se laisser féconder par cette parole, et on voit que jour après jour, par cette parole, le Christ nous habite, et ainsi nous imprègne, et nous ouvre sur des sens cachés de l'Écriture. Parce qu'il s'agit plus de se laisser toucher que de vouloir comprendre. La grande problématique avec la relation avec la parole biblique, c'est le fait qu'on lit une parole dans un rapport, dans un mode intellectuel, et en fait, on ramène la parole à ce qu'on en comprend. Mais évidemment que la parole, elle est beaucoup plus que ce qu'on peut comprendre de la parole. Donc la question, ce n'est pas de ramener la parole à ce qu'on comprend, et on fait beaucoup ça dans les milieux chrétiens, mais il s'agit qu'on accueille la parole et on laisse l'Esprit Saint œuvrer en nous et nous révéler le sens profond de cette parole. Et en plus, on peut considérer que quand on s'est laissé toucher par une parole, on peut considérer que c'est le Christ lui-même qui nous adresse pour aujourd'hui cette parole. Et s'il nous adresse pour aujourd'hui cette parole, ça signifie qu'il a une parole pour nous. Et cette parole, elle est ce qui va nous permettre de cheminer aujourd'hui vers plus grande profondeur de son intimité. Donc, l'Alexio Divina peut s'exercer. Ah, on peut faire pareil à l'église. Alors, moi, dans ma paroisse, je fais ça. Je dis, voilà, vous venez à l'église, etc. Mais je me mettrai à la sortie et vous me direz quelle est la parole que vous avez retenue dans la liturgie. Il y en a qui coincent, hein. Je lui dis, attendez, c'était quoi l'évangile déjà aujourd'hui, on ne sort pas de l'église si vous n'avez pas une parole. Demandez aux autres quel était l'évangile pour voir. Donc après, c'est pour les invités à être plus attentifs et pas simplement à suivre la liturgie, puis après c'est fini, puis on oublie tout. Non, non, quelle est la parole? Une. C'est pas beaucoup quand même, mais une parole qui vous a touché. Donc c'est pas simplement une parole que vous avez entendue, c'est. Qu'est-ce qui vous a touché? Parce que si une parole touche, ça va mettre en mouvement. Vous voyez, quand on est touché par quelque chose, on est mis en mouvement. Et comment le Christ, par une parole, a pu me mettre en mouvement aujourd'hui? Donc je leur demande, je leur fais le coup de temps en temps, je me mets à la sortie. Ouais, quelle est la parole que vous avez entendue aujourd'hui? Donc après, ils sont plus attentifs. Si Père Philippe se met à la sortie, il me demande. Voilà, et c'est un, vous voyez ça. Donc, parce qu'on peut débiter des paroles, mais s'il n'y a pas une parole qui nous touche, et finalement, on aura tout oublié. Et voilà. Alors que si on est touché par une parole, ça veut dire qu'on est touché par la parole du Christ, ça veut dire qu'on a un vecteur de relation avec le Christ, et donc ça vient approfondir ce lien. Parce que la visée de la prière, c'est d'entrer dans un lien intime et un lien qui s'intensifie avec le Christ. C'est ça le but. Donc l'Alexio Divina, très importante, et en fait, nous avons par là le fait que nous avons accès par la grâce de l'Esprit Saint à des sens cachés de l'Écriture, parce que le Christ, il y a une présence sacramentelle du Christ dans les Écritures. Il y a une parole sacramentelle, il y a, pardon, une présence sacramentelle du Christ dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a une présence sacramentelle. Ça veut dire quoi, sacrement? Ça vient du latin sacramentum, qui traduit le grec mystérium. C'est la présence mystérieuse du Christ dans l'Écriture. Ainsi, vous savez, dans l'Évangile, on parle de la parabole, de l'épisode du figuier. Vous savez, Jésus va à Jérusalem, et puis là, il veut s'approcher d'un figuier parce qu'il a faim, il veut prendre une figue, et puis il n'y a pas de figue sur le figuier. Alors, il maudit le figuier, et puis après, il va à Jérusalem, il chasse les vendeurs du temple, et il revient, et puis Pierre dit, regarde le figuier que tu as maudit, il est complètement desséché. Voilà. Et donc, c'est quoi cette signification? Alors, on pourrait dire, c'est pas très écologique, hein, quand même, on pourrait dire, quand même, il n'est pas très gentil avec les figues, le Christ. Hein. Donc, la figue, il y a les feuilles et puis il y a les fruits. D'accord? Et en fait, les feuilles, c'est l'ornementation. Et la figue, c'est le fruit. Donc, on peut être dans une approche de l'ornementation, c'est-à-dire trouver que la qualité littéraire à l'Évangile, trouver que ces textes sont beaux, etc. Ça, c'est l'ornementation. Mais le fruit, c'est comment la parole me touche et me féconde. Et donc, ce qui est dit comme message ici, on va le retrouver plus loin, c'est que Jésus dit aux pharisiens, mais vous vous intéressez plus à l'ornementation qu'au fruit. Et puis, il leur dit une chose, c'est que les Écritures, la Torah, parlent de moi, mais quand je viens, vous ne me reconnaissez pas. La Torah parle de moi, mais quand je viens, vous ne me reconnaissez pas. Comment se fait-il que vous, qui êtes imprégnés de la parole de Dieu, qui parle du Messie, quand le Messie vient, vous ne le reconnaissez pas? Ça nous interroge. Et donc, c'est ça le sens du figuier. C'est le fait que on puisse lire la parole, voire étudier la parole, et ne pas faire de la parole un mode de relation avec le Christ. Parce que l'essentiel, c'est comment la parole nous introduit dans une relation avec le Christ, et ce n'est pas la parole pour elle-même en tant qu'ornementation, en tant qu'elle est une richesse littéraire, qu'elle est une richesse du récit, qu'elle est une richesse mythique, etc. Vous voyez ça? Et c'est là où il y a toute la différence. Et le Christ dit, et c'est ça la parole du jugement, et la parole du jugement dernier, c'est celle-là. Il dit, maintenant que je suis venu, vous ne pouvez plus faire comme si je n'étais pas venu. Maintenant que j'ai parlé, vous ne pouvez pas faire comme si je n'avais pas parlé. Et en fait, il dit, ma venue et la parole seront le jugement. C'est-à-dire, il est venu, qu'est-ce que nous avons fait de sa venue? Il a parlé, qu'est-ce que nous avons fait de sa parole? Et en fait, c'est ce que nous aurons fait de sa venue ou de sa parole, et ceux qui auront accueilli la parole avec joie, on trouve l'évangile, semeur, semence, etc. On a tous les évangiles pour illustrer tout cela. Vous voyez, et donc ceux qui ont accueilli la parole avec joie et qui eux se sont convertis au Christ, alors ils auront eu les fruits de la venue et de la parole du Christ. Mais ceux qui ont entendu la parole et qui ont vu, qui ont pu voir le Christ, mais qui ne l'ont pas reconnu comme le Messie, alors ce fait de cette non-reconnaissance sera le jugement. Ça dit une chose, ça dit que ce n'est pas Dieu qui va nous juger. C'est nous qui, selon l'accueil ou le non-accueil, nous nous situons dans la relation ou en exil de la relation. Donc les enjeux sont quand même extrêmement importants. Et donc on voit bien ici l'importance de la prière, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se contenter d'une prière extérieure, d'une prière dite, ou de l'assistance, d'assister à une liturgie où la prière se dit, Mais il s'agit de faire de la prière une occasion de rencontre avec le Christ. Et par là, de accueillir sa parole, mais une parole vivante qu'il m'adresse aujourd'hui, c'est ça le sens de l'élection divine. Le Christ nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, il nous donne la pédagogie de la prière. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc il y a une pédagogie ici. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, c'est-à-dire un lieu intime, ferme la porte au bruit du monde, d'abord, et quand tu as fait ça, prie ton Père. On peut mettre sur le deuxième plan, une fois qu'on est entré dans la chambre et qu'on a fermé la porte, il faut ensuite descendre dans la chambre du cœur, fermer la porte aux soucis, fermer la porte aux pensées parasites, ça c'est un sport de haut niveau, hein, et prier. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prier dans un capharnaüm extérieur, on ne peut pas prier dans un capharnaüm intérieur. Donc ça demande ici de se disposer à la prière, de se disposer aux crises à la prière, et donc un chemin vers le silence intérieur, qui est un exercice, et qui permet aussi de ne pas vivre, ou de ne plus vivre sous occupation. C'est quoi vivre sous occupation? Eh bien, c'est vivre sous un flot de pensées qu'on n'arrive pas à juguler. C'est ça, vivre sous occupation. C'est-à-dire que ça pense en nous tout le temps. Mais si ça pense en nous tout le temps, alors nous sommes imprégnés de plein de choses qui nous traversent. Et en fait, nous sommes un peu, dans la confluence de tout ce qui nous traverse. Et nous sommes comme si ça venait nous tirer au dehors et ça nous fait échapper à l'intériorité. Or, comme le dit saint Augustin, il dit « Dieu est plus intime à moi-même que moi-même et en même temps que l'autre. » Mais pour aller vers le plus intime, il s'agit de faire un forage à l'intérieur. Faire un forage, descendre dans ce silence, car Dieu habite le silence. Donc, il s'agit de quitter le bois. Quitter le bois, c'est un exercice, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Et donc, on doit s'exercer à faire cela. Et alors, si on n'y arrive pas, eh bien, il y a des modes de prière qui nous permettent d'y arriver. La psalmodie d'abord. La psalmodie, c'est fait que ça nous permet d'entrer dans la psalmodie chantée de psaume, par exemple, parce que quand on chante, on ne peut pas réfléchir à la fois. On ne peut pas chanter et avoir une réflexion. C'est pas possible. Voilà, donc, c'est pour ça que nous, dans la tradition orthodoxe, nous chantons, tout est chanté dans la liturgie. Donc on ne dit pas l'évangile, on ne dit pas les psaumes, on les chante. Et quand on chante, ça nous invite à être pleinement présents et ça nous libère justement des flots des pensées. Par exemple, autre exercice, on vient ici dans l'église. Quand on vient dans l'église, on rentre dans le royaume et on quitte le monde. Et d'ailleurs, au milieu, c'est maintenant... Le chéri Bicon, pardon.
Je vais peut-être nous aux soucis du monde.
Voilà, maintenant nous éloignons des soucis du monde. Voilà. Donc il s'agit de s'écarter des soucis du monde. C'est-à-dire, dans l'église, on ne devrait pas avoir une seule pensée sur les soucis du monde. C'est pas mal de s'abstraire pendant 2 heures. C'est quand même un cadeau qui est donné, hein, qui est proposé en tout cas. Qui est proposé. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a cet exercice aussi, c'est-à-dire d'être totalement là dans la prière, d'être dans le chant ensemble et dans la prière ensemble, qui fait qu'on quitte les soucis. Pourquoi? Parce que, en fait, on est bien d'accord que les choses du monde vont continuer, que les soucis ne vont pas s'arrêter parce qu'on vient à l'église, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Voilà. Mais si on s'abstrait des soucis, si on se met à l'écart, quand on va revenir avec le fait qu'on se sera déporté et on va vivre un autre rapport avec les soucis. Et si on les voit sous un autre angle, on s'apercevra qu'on va gérer ou en tout cas avoir à se positionner d'une autre manière par rapport aux soucis. Donc en fait, c'est le fait de s'abstraire, et c'est ça qui est proposé, d'entrer dans la chambre, de fermer la porte, c'est-à-dire se mettre à l'écart pour quitter le fait d'être occupé, préoccupé par les soucis, pour, s'étant imprégné de la présence par la prière, venir revisiter notre relation avec les problématiques du moment. Et quelquefois, il y a des choses qui s'ouvrent. C'est-à-dire, quelquefois, c'est parce qu'on était sous un rapport d'asservissement ou sous le fait d'une émotion particulière qu'on n'a pas su gérer l'épreuve. Mais si on se met à l'écart, alors ça va nous introduire dans un autre rapport à ce qui se présente à nous. Et dans cet autre regard, on va trouver le chemin pour faire de cette épreuve, de cette difficulté, une ouverture de conscience et peut-être une occasion de croissance spirituelle, d'élévation, et non pas d'effondrement à cause de l'épreuve. Donc, en fait, dans la grande tradition, les grands saints ont toujours préconisé de se mettre à l'écart du monde. C'est une respiration, et même dans l'Évangile, vous pouvez voir cela et constater cela, le Christ dans l'Évangile, il vit avec ses apôtres, il parle à la foule, et puis régulièrement, il se met à l'écart sur la montagne pour prier. Donc on voit bien que se mettre à l'écart sur la montagne pour prier est bien une attitude particulière qui permet de pouvoir revenir vers la foule d'une autre manière, et en tout cas de ne pas se laisser absorber par la foule, de ne pas se laisser absorber par les mouvements du monde, mais toujours se mettre à l'écart pour ne pas se laisser dissoudre dans le monde. Donc, entre dans ta chambre, ferme la porte, ou bien se mettre à l'écart sur la montagne pour prier, c'est la même chose. Parce que symboliquement, monter sur la montagne, c'est descendre, c'est monter sur la montagne du cœur, c'est-à-dire descendre dans la profondeur du cœur. Descendre dans la profondeur du cœur, monter sur la montagne, c'est la même chose. Donc, la prière nous invite à descendre dans la profondeur du cœur et à vivre l'expérience du cœur profond. Comme le dit Saint Sophronie, je parlais tout à l'heure de Saint Sophronie, le père Sophronie qui a fait connaître Saint Silloine, maintenant il est canonisé, donc c'est Saint Sophronie, il disait, les prières sont spirituelles parce qu'elles sont un mouvement de l'esprit, à condition qu'elles jaillissent du cœur. Comment faire de la prière une prière du cœur? C'est cela la question essentielle. Et c'est ce que j'ai développé tout à l'heure, c'est-à-dire, tout d'abord on dit la prière, on assimile la prière, et puis ensuite on la proclame comme si maintenant elle venait de jaillir de moi, pas comme si elle venait d'ailleurs et puis elle vient vers moi, mais comme si, m'étant imprégné de la prière d'un psaume par exemple, je dis « Seigneur, dans ma détresse, je crie vers toi », comme si j'improvisais ces mots-là dans l'instant. Et donc c'est ça l'assimilation de la prière de l'Église qui fait que ça devient le jaillissement de ma propre prière vers Dieu, de mon propre cri vers Dieu, etc. Et donc là, nous sommes dans quelque chose qui est une focalisation où en fait, il y a bien eu une décantation ici, une mise à l'écart, et à un moment donné, quelque chose qui jaillit de nous-mêmes et qui nous fait vivre l'intensité d'une relation avec Dieu. Là, nous sommes dans la prière de cœur. Donc, se mettre à l'écart, prier, comme un mode de vie. Et c'est quelque chose que l'on doit appliquer. Après, moi, je fais comme ça, c'est-à-dire, quand il y a des épreuves, je ne confronte pas directement l'épreuve. Je me mets à l'écart, je me mets dans ma chambre, je ferme la porte, je fais silence, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette épreuve ? C'est-à-dire, quelle est la pédagogie divine que tu veux m'adresser là ? Donc ça veut dire que nous sommes dans une vraie conversion, pénitence, parce qu'il y a un changement de référentiel. Au lieu que je prenne référence dans le monde et que je réagisse par rapport aux réalités du monde, Je reviens vers le Christ, qui est mon référentiel, et c'est à partir du Christ que je vais répondre, et non pas être en réaction par rapport au monde. Vous voyez la différence ? Très importante. Donc, vous voyez, il y a des dimensions très concrètes comme ça, et je crois que c'est important d'approfondir ces dimensions concrètes, parce que la prière liturgique est un support, mais elle n'a pas de garantie que ça nous mène à la prière du cœur. Ça demande un cheminement personnel. Et si on ne fait pas ce cheminement personnel, on peut rester dans la prière superficielle toute sa vie. Donc après, on voit bien que 40 ans de vie liturgique, ça ne fait pas forcément des saints. Non, là, ce qui fait des saints, c'est la manière de vivre la vie liturgique. Vous voyez ? Comme le dit un juif qui s'appelle Martin Buber, il dit « Tous les chemins mènent à Dieu. » Tous les chemins mènent à Dieu. Et il rajoute « À condition qu'on le vive de telle manière que ça nous mène à Dieu. » Ce n'est pas automatique. Vous voyez, ce n'est pas automatique. La vie liturgique nous mène à Dieu. À condition qu'on le vive intérieurement de telle manière que nous vivions sur la profondeur du cœur et non pas sur la superficie intellectuelle de la liturgie. Donc c'est là où, en fait, il ne s'agit pas simplement d'être un spectateur liturgique, il s'agit d'être un acteur liturgique. Et le prêtre en premier, évidemment. C'est-à-dire qu'on soit d'enfermer l'intelligence dans les mots, d'être complètement dans l'instant et la prononciation des mots, etc., qu'on soit nulle part ailleurs, donc on ne laisse pas l'esprit divaguer. Et puis ensuite, quand on dit les prières, disent comme un cri, comme quelque chose qui va jaillir de l'intérieur et pas simplement comme des formules qu'on répète. Vous voyez, donc c'est ça qui fait qu'on est dans un mode de relation différent. Donc ça nous fait vivre ici plusieurs modes de prière. Il y a un mode de supplication, d'appel à la conversion, d'action de grâce, de louange. Donc il y a certains pères, ils vont partager le psautier en trois parties. Psaume 1 à 50 pour la purification du péché. Psaume 51 à 100 pour la guérison par la pratique des vertus. Et puis psaume 1 à 150 pour l'exaltation et la glorification. C'est un partage des psaumes. Il faut rappeler que les psaumes, c'est particulier dans le texte biblique, parce que ce n'est pas des paroles de Dieu. Mais c'est des paroles qui sont des paroles en particulier exprimées par le roi David, qui s'adresse à Dieu à partir de la révélation biblique, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu. Donc, en fait, vous savez, les moines chantent tout le psautier dans la semaine. Et c'est comme si c'était un support de toute une œuvre thérapeutique, parce que les psaumes expriment tous les états d'âme qu'on peut rencontrer, tout ce que l'être humain peut rencontrer d'état d'âme se trouve dans les psaumes. Parce qu'il y a des moments, il y a des psaumes un peu bizarres, hein, qui sont un peu agressifs des fois, il y a des choses, on se dit, moi j'ai pas envie de dire ce qu'il y a dans ce psaume-là, parce que là, il y a des... Voilà. Non, mais ça exprime toutes les colorations des états que peut éprouver l'être humain, mais ce qu'il faut bien comprendre, que c'est pas simplement l'expression de ces états, c'est la transformation de ces états-là en prière. C'est-à-dire, c'est pas « Seigneur, je suis en colère », c'est « Seigneur, je suis en colère, qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas constater un état, c'est de faire de la reconnaissance de cet état une prière vers Dieu pour me dire « Délivre-moi de cela ». C'est important de repréciser la pédagogie des psaumes dans ce sens-là. Donc avec les psaumes, on visite tous les états intérieurs et on va les transformer sous forme de prière en disant « Seigneur, je prie vers toi ». Exauce-moi, viens au secours de ma détresse, etc. Donc on a d'abord les supplications. Et ça commence par le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc on a ici tout ce mouvement de l'homme qui se met en route vers Dieu avec toute la dimension pénitentielle et en même temps une aspiration intérieure. Donc on a aussi ce désir qui est exprimé, par exemple dans le psaume 42, où il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Donc il y a d'un côté la détresse qui peut être vécue et la supplication, et de l'autre côté, le désir. Donc, on a ces deux choses en nous. On a le désir de Dieu, et en même temps, ben, on vit, on voit nos échecs, on voit nos erreurs, on voit qu'on on patauge la choucroute, et on, vous voyez ça. Et donc, ça nous invite ici à ne pas juger ces états intérieurs, mais à en faire des occasions de prière. Et c'est ça qui est beau dans les psaumes. Voilà. Et puis aussi, il y a « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant », etc. Il y a psaume 73, il y a un appel à la conversion. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, etc. » Reconnaissance que d'un côté il y a la bonté de Dieu et de l'autre côté ben moi je dérape, je ne suis pas comme il faut, etc. Et encore une fois, c'est important de repréciser, il ne s'agit pas de se juger, de se condamner, mais de regarder l'état et de dire voilà, c'est, tu vois, depuis tant d'années j'ai pas fait de progrès, je suis toujours dans mes mêmes ornières, je suis toujours avec mes mêmes trucs, etc. Mais il ne s'agit pas de se culpabiliser, de dire Seigneur viens à mon secours et donne-moi la grâce d'une transformation intérieure pour que je sorte de ces ornières. Donc il y a tout un esprit de la prière comme ça, qui est toujours un esprit où on se tourne vers Dieu, on demande de l'aide à Dieu, parce qu'on sait que sans la grâce et sans lui, on ne peut rien faire. Donc, vous voyez ici, ça exprime ce mode de relation avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit, il s'agit de vivre en Dieu, même si on vit des états déplorables. Eh bien, on dit à Dieu, je suis dans un état déplorable. Et donc, tout de suite, si on le place devant le Seigneur, les choses sont autres. C'est-à-dire, on n'essaie pas de se sortir tout seul. On dit, Seigneur, justement, je ne m'en sors pas et je supplie ta grâce. Et sans ta grâce, eh bien, je vois que je n'arrive à rien. Donc, de vivre et d'expérimenter que le Christ est vraiment mon sauveur. Il va vraiment me sauver. Il va me sauver si je me confie en lui, si je m'en remets à lui, si je dépose en lui, et si finalement j'espère en lui. Et c'est important de vivre cela et de vivre l'expérience qu'un retournement va se produire. Parce que la grâce du Christ est agissante aujourd'hui comme hier. Vous voyez ? Donc on a une expérience de la prière. Donc là, un point très important, c'est qu'il s'agit de s'investir dans l'intensité de la prière pour faire l'expérience que la grâce va bien agir, et qu'ensuite il s'agit de bien nommer une grâce comme une grâce. Nommer une grâce comme une grâce. Parce que, quelquefois, il y a une embellie à l'intérieur, on dit, bon, ça va mieux aujourd'hui, mais on n'a pas repéré qu'il y avait une grâce qui agissait. Alors, pareil, autre exercice que je donne à mes membres de la paroisse, en disant, en fait, quand on vient à la liturgie, c'est pour la liturgie eucharistique. Mais une liturgie eucharistique, c'est une liturgie d'action de grâce. Parce que ephraristo, en grec, ça veut dire merci. Donc on vient dire merci pour les grâces qu'on a reçues. Alors cette fois-ci, pas à la fin de la liturgie, mais au début, je peux demander, c'est quoi la grâce que tu as reçue cette semaine ? C'est-à-dire, voilà, j'ai vu les grâces, j'ai vu les problèmes, mais j'ai pas vu beaucoup les grâces. Donc, on peut faire un exercice tous les soirs, parce que vous savez, il y a l'exercice d'examen de conscience le soir, pour voir en quoi on a péché, en quoi on n'a pas été juste, et c'est bien de faire ça. Très bien. Moi, je pense que c'est avant de faire, de regarder tout ce qui n'a pas été bien, de pouvoir nommer une grâce, deux grâces, trois grâces. Fondamental. Pourquoi ? Parce que reconnaître les grâces, c'est reconnaître que Dieu agit dans ma vie, qu'il est présent, que je ne suis pas seul. Et c'est parce que je vais reconnaître que Dieu agit dans ma vie que je vais pouvoir m'appuyer sur la présence de Dieu. Et c'est très important ça. Donc, et si on fait ça, on va découvrir peu à peu qu'il n'y a pas eu une, deux ou trois grâces, il y en a eu 10, 20 ou 30. Et après, le dimanche, eh bien, on va liturgie eucharistique, c'est-à-dire pour venir dire merci pour toutes les grâces. Et si chaque membre de la paroisse venez dire merci pour toutes les grâces, on aurait une intensité et une dynamique de la vie liturgique extraordinaire. Et au lieu d'arriver pour une liturgie comme ça, vous voyez, c'est autre chose. Donc, se rappeler que la liturgie, C'est liturgie eucharistique, c'est l'action de grâce. On vient rendre grâce à Dieu, mais on vient rendre grâce parce qu'on atteste des grâces qu'on a reçues de Dieu. Donc vous voyez, c'est une disposition à la grâce. Mais si on est disposé à la grâce, évidemment que la vie, ça sera autre que si on est simplement en confrontation directe avec des épreuves ou des difficultés de la vie. Et là encore, on va traverser l'existence d'une autre manière. Pour moi, c'est très important qu'il y ait une application concrète que de dire, ben voilà, c'est pas, on est croyant, et comme on a été croyant, on a été la liturgie, on mérite le ciel, et quand même, le Seigneur va bien nous offrir le ciel comme ça, et donc, mais on n'a pas garanti du résultat. Non, je crois que c'est pas dans cet ordre-là, c'est comment on peut vivre la grâce de Christ à chaque instant, maintenant, parce que le Christ a dit, le royaume, c'est maintenant, non ? Le royaume, c'est maintenant. Mais le royaume, c'est maintenant, à condition de se disposer au royaume. Se disposer au royaume, ça veut dire descendre dans le cœur, ça veut dire aussi se mettre à l'écart pour prier, comme on a dit tout à l'heure, et ça veut dire aussi vérifier qu'il y a des grâces qui me sont données, et que par ces grâces, Dieu est présent dans ma vie. C'est ça la prière. Au-delà de la formulation, la prière, c'est vivre en relation avec Dieu. Et pas 15 minutes ou une heure dans la semaine, c'est à chaque instant. Et c'est ça qu'il s'agit de saisir. Et si on s'exerce, et c'est ça l'ascèse, parce que l'ascèse, c'est s'exercer, on s'exerce, et on s'exerce, on rate, on s'exerce, on réussit, on s'exerce un peu mieux, on s'exerce, mais ça ne marche pas quand même, alors on s'exerce. Et à force de s'exercer, comme dit Saint-Sylvain de Latos, il dit « Dieu voyant notre désir, va à un moment donné répondre à notre désir. » Saint Jean Chrysostome, il a cette image extraordinaire où il dit, en fait, pour qu'un bateau avance, il faut lever la voile. Il faut lever la voile. Et si on ne lève pas la voile, on n'est pas avec les moteurs. Hein, c'est avant Saint Jean Chrysostome, il n'y a pas de moteur. D'accord ? Voilà, il faut lever la voile. Voilà, donc, si on lève la voile. Donc ça veut dire qu'il y ait le désir de Dieu. S'il n'y a pas le désir, la voile, c'est le désir, c'est ce qui va permettre l'impulsion, comme ça. Et puis, s'il y a du vent dans la voile, le bateau il avance, il n'y a plus qu'à tenir la barre. La barre, ça veut dire qu'il faut bien s'orienter vers le Christ. Voilà. Puis à un moment donné, il dit, quelquefois, le désir faiblit, et donc le vent tombe, et il dit à ce moment-là, il faut sortir les rames, et ramer avec la miséricorde. Mais à la 16, c'est les rames. Vous voyez, mais quand on met les rames, on avance avec le bateau, on crée un vent relatif, et le vent relatif, eh bien, ça veut dire que quand on n'a pas le goût, qu'on n'a pas de sens de la prière, alors on dit les prières pendant une demi-heure, une heure. On fait par exemple la prière de Jésus, et je vais y revenir, ou bien on fait la lecture des psaumes, la psalmodie, etc. Pour redynamiser, pour redonner le souffle avec les rames, c'est un effort, c'est volontaire, c'est etc. Pour se resituer dans un élan intérieur, et dans cet élan, la grâce va venir, souffler dans les voiles. Et vous voyez, donc, après, il y a un autre père qui dit, qui compare avec un oiseau, il dit, un oiseau, pour s'envoler, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut beaucoup investir d'efforts, puis à un moment donné, il rencontre de l'air chaud, puis il est porté, il s'élève avec l'air chaud, puis à un moment donné, il rentre un courant d'air froid, puis hop, ça rebaisse. Il faut redonner des coups d'aile. Donc là, c'est pareil. Donc, on dit dans la tradition orthodoxe, on appelle ça la sainte synergie, c'est-à-dire la sainte coopération entre Dieu et l'homme. Dieu travaille, et c'est la prière sans effort, puis à un moment donné, on n'a plus le goût de prier, plus envie, et c'est à nous de nous réinvestir, d'investir dans la prière, dans la lecture de l'Évangile, dans la lecture des psaumes, dans la cantilette des psaumes, etc., pour relancer le mouvement, et à ce moment-là, en réponse à notre désir qui s'exprime dans cet effort, Dieu va répondre par sa grâce. Et donc, pour tout cela, on peut voir que nous sommes dans un dialogue avec Dieu. Nous sommes dans une relation. Et donc, ce qui est la clé ici de toute la vie chrétienne, c'est de, en permanence, vivre une relation avec Dieu, au sein de notre vie, vivre dans ce monde, sans être de ce monde, c'est-à-dire en étant avec Dieu, dans la réalité du monde. Et c'est quand même plus sympa de ne pas être tout seul, hein, d'être avec quelqu'un. Donc on dit le chrétien, il n'est pas forcément meilleur qu'un autre, mais il y a une grande différence, il a quelqu'un dans sa vie. C'est le Christ qui est dans sa vie. Donc il y a ici plusieurs états, plusieurs dimensions aussi. Il y a la louange, on a tous les psaumes 118, 136, 146, 147, 148, 149, 150, qui sont... Donc on peut chanter les psaumes. Et comme le dit David, le roi David, il dit « Mon âme est triste, mais je loue le Seigneur ». La louange, c'est fait pour percer les nuages de tristesse de l'âme. Quand on est envahi par des tristesses ou des états d'âme, alors il s'agit d'entrer dans le chant des psaumes pour percer les nuages. Il s'aperçoit que derrière les nuages, le soleil brille tout le temps. Donc, si on est enténébré, c'est pas qu'il n'y a plus de soleil, c'est nous qui avons accumulé des nuages. Donc, dissiper ou traverser les nuages par la prière, c'est-à-dire par l'esprit, traverser les nuages de l'âme. Donc, on a ici tout un mode qui est proposé dans l'ensemble de la prière liturgique chrétienne et qui nous amène justement à acquérir, je dirais, une pratique de la prière, une habitude de la prière, et avec le psaume 50 aussi, qui est le psaume de pénitence, qu'on répète, qu'on a à chaque office, hein, « Aie pitié de moi, Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement mon iniquité. » La prière de pénitence, ce n'est pas une prière où il s'agit de s'auto-accuser, c'est une prière où on reconnaît ses manques. Et on reconnaît ses manques devant Dieu pour dire « Seigneur, viens combler mes manques. » Donc ce n'est pas une prière de désespérance, c'est au contraire une prière où on se jette dans l'espérance en Dieu en disant « Voilà, Seigneur, tu vois que par moi-même, ça ne va pas trop. » Mais grâce à toi et à l'œuvre de l'Esprit, alors les choses vont être transformées. Donc il s'agit toujours de voir qu'il y a une orientation positive des prières. Ensuite, je dois parler de la prière spécifique qui s'est développée dans la tradition philokalique et dans la tradition de l'Église orthodoxe, qu'on appelle prière de Jésus. Donc on a parlé de l'Alexio Divina tout à l'heure. L'Alexio Divina, nous avons dit que c'est lire un péricope d'évangile, lire à haute voix, puis se laisser toucher par une parole. Parce que le Seigneur a dit, Seigneur, donne-moi une parole et mon âme sera guérie. Une parole. Comme disait un père du mont Athos, il disait, autrefois, en Égypte, il y a des gens qui faisaient 200 km à pied pour venir chercher une parole d'un père. Et aujourd'hui, on entend des milliers de paroles, on n'est pas transformé. À l'époque, une parole pouvait transformer quelqu'un, et aujourd'hui, on est tellement dans la superficie de l'approche superficielle de la parole, qu'on n'est pas transformé par une parole. Donc en fait, là, c'est se laisser toucher par une parole, et c'est laisser imprégner par cette parole, et c'est transformer par cette parole jusqu'à ce que cette parole devienne féconde. Donc c'est ce même principe que les pères ont retenu en considérant que on pouvait effectivement, s'il s'était touché par une parole de la Bible, mais on pouvait aussi avoir une formule qui est récapitulation de toute la Bible. Or, toute la Bible, elle est autour de l'attente du Messie. Donc, le Messie, qui pour nous est le Christ, est au centre de l'Écriture. On peut dire que toute la Bible est christocentrique. Donc, ils ont trouvé une formule d'invocation de la présence, qui est une invocation trinitaire, Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu. Il y a ici l'Esprit Saint, puisque l'apôtre Paul dit « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est dans le Saint-Esprit ». Donc, si on peut dire que Jésus est Seigneur, on le reconnaît comme maître de notre vie, comme le dit la très belle prière de saint Éphrem le Syrien, on dit pendant le carême. Donc on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire que on dit à Jésus, c'est toi qui me guide, c'est toi qui es le maître de ma vie, et c'est toi seul que je vais suivre. Mais cela ne peut se faire que dans la grâce du Saint-Esprit. Donc Seigneur Jésus, Jésus, il est celui qui est au cœur des évangiles, au cœur de la Bible, il est celui qui est au fondement de notre foi, et donc il est celui aussi qui est le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu, on nomme le Père. Donc nous avons l'Esprit Saint, le Christ, Jésus, et le Père qui est nommé par le fait de Fils de Dieu. Donc invocation trinitaire. Après il y a « Aie pitié de moi, pécheur ».« Aie pitié de moi », le terme grec c'est « Elaison ». Et « Elai » c'est l'huile, et c'est l'image de gouttes d'huile qui descendent une à une et qui viennent imprégner une feuille de papier. Donc l'huile imprègne le papier, mais l'huile a la propriété de rendre le papier transparent. Donc c'est l'image, Elaison, de l'appel de la grâce qui descend goutte par goutte, qui vient imprégner mon cœur et rend mon cœur transparent à la présence. C'est l'image. C'est-à-dire, Seigneur, c'est-à-dire, aie pitié, c'est Seigneur, rends-moi transparent ta présence. Alors évidemment, c'est autre chose que les pitiés, parce qu'il y a une connotation occidentale du aie pitié. Dans le misérabilisme, quand on dit j'ai pitié de toi, c'est-à-dire j'ai un dédain pour toi. Donc c'est pas, on ne demande pas à Dieu d'avoir un dédain pour nous, évidemment. Donc le mot aie pitié, j'aime bien en anglais, on dit have mercy. Have mercy, c'est fais grâce à moi. Donc on dit dans. C'est l'évêque Silouane dans notre église qui a dit miséricordie-moi. Mais c'est vrai que miséricordie-moi, c'est une formule où fais miséricorde à moi. Ou alors on dit Seigneur miséricorde. Il y a certains qui le font dans notre église, hein. Pas ma problème, entre autres. Voilà, donc, mais c'est bien ça le sens en tout cas. Fais grâce à moi. Mais on peut dire fais grâce à moi. Si quelqu'un veut dire fais grâce à moi au lieu de pitié de moi, je le bénis pour le faire. Parce que c'est le vrai sens. Donc, après, il y en a qui disent, mais c'est très quand même égocentrique, c'est fait grâce à moi. Alors, comme ça, j'ai vu des personnes qui me disent, parce qu'on peut faire la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de mon conjoint, ou aie pitié de mon fils, ou aie pitié de. Voilà, on peut mettre comme ça. Puis il y en a deux, il y en a certains qui disent, bon, moi j'ai dit 10 fois, aie pitié de moi, pécheur, puis après, quand même, je prie pour mon fils, je prie pour mon mari, je prie pour ma femme, je prie pour. Etc. Et puis voilà, puis on ne prie plus pour aie pitié de moi. Alors je leur dis, si tu considères que ton mari, il a plus besoin que toi. Vous voyez, donc en fait, non, c'est aie pitié de moi, ce n'est pas un moi exclusif, ce n'est pas un moi égoïste, c'est aie pitié de moi inclusif. C'est-à-dire aie pitié de moi et par moi, aie pitié du monde entier. Donc c'est un moi inclusif. Et le mot pécheur, alors on a cet accent de pauvre pécheur et une connotation négative. Mais non, ici, dans la tradition orthodoxe, la connotation de pécheur n'est pas négative. Parce que c'est « aie pitié de moi, qui me reconnaît pécheur ». Je me nomme moi-même pécheur. Mais si je ne me nomme pas moi-même pécheur, c'est-à-dire j'atteste que je ne suis pas dans la justesse. Et parce que je ne suis pas dans la justesse, fais grâce à moi pour me remettre dans l'axe juste. Donc finalement, ce n'est pas pauvre pécheur, c'est, je pourrais dire, ben, voilà, je me reconnais pécheur et j'appelle le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, pécheur qui appelle Seigneur, voyez, et donc justement j'ai besoin d'un sauveur parce que je sais que je ne suis pas sauvé et que j'ai besoin de quelqu'un qui me sorte de l'ordinaire. Donc il faut entendre pécheur comme en dialogue avec Seigneur et quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas se sauver lui-même mais qui a besoin du Seigneur pour le sauver. Donc on a cette formule ici et cette formule nous pouvons la répéter donc oralement. On peut l'articuler, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, ce qui focalise l'attention pour qu'on soit bien présent et pour qu'on enferme l'intelligence dans chaque mot de la prière afin d'éviter le vagabondage des pensées. Parce que, voilà, donc éviter le vagabondage des pensées, ça veut dire, c'est se mettre à l'écart pour prier, c'est-à-dire ne pas être envahi par les pensées du monde, mais se mettre à l'écart. Et si on se met à l'écart et ne plus envahi par les pensées du monde, on peut poser un regard sûr. Au lieu d'être sous l'emprise d'eux, au lieu d'être totalement envahi par les choses du monde et par les pensées du monde, se mettre à l'écart, regarder le monde plutôt que d'être asservi au monde. C'est ça l'œuvre de la prière. Donc, en fait, elle va décompter l'intérieur, ça va nous permettre de faire un forage, à force de répéter Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi pécheur, à l'exclusion de toute autre pensée. Il va y avoir un forage. Et peu à peu, on va se vivre à l'écart du monde, mais aussi à l'écart de l'agitation intérieure. Et par là, nous allons pouvoir poser un regard sur notre monde intérieur, sur le monde extérieur, Et donc le rapport se sera inversé. Au lieu qu'on soit asservi par les réalités du monde, ou bien sous l'emprise des états d'âme, sous l'emprise des émotions, sous l'emprise d'une agitation intérieure, on la regarde, on est dans la nepsis, c'est-à-dire l'observation, plutôt que d'être dans l'asservissement. Et le rapport a changé. C'est-à-dire, on n'est plus sous un rapport où on est asservi, on est sous l'emprise, mais un rapport où on pose un regard et où on peut, je dirais, avoir une autorité sur les mouvements intérieurs. Et c'est bien cela qu'il s'agit d'acquérir. Il y a un passage éminent dans les évangiles à ce sujet. C'est le passage du centurion romain qui vient vers Jésus parce qu'il a un serviteur qui est malade. Il dit, Seigneur, viens guérir mon serviteur. Puis il dit juste après, mais je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Mais il ajoute encore, avant que Christ ne tombe comme ça, je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des subalternes. Il suffit que je dise à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et à l'autre il fait ceci, il le fait. C'est un centurion, c'est pas un juif, c'est pas un rabbin, et c'est pas un pharisien. Et Jésus fut dans l'admiration devant ce centurion. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Ça nous intéresse quand même. Quand Jésus fait, il est admiratif. Et donc la foi qualifie le fait que le centurion a dit, Seigneur, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Bon, déjà, que le Christ dit, ton serviteur est guéri, et il retourne chez lui dans la certitude qu'il est guéri, c'est déjà une foi immense. Hein. Mais ce n'est pas tout. Il dit, je suis moi-même sur l'autorité du supérieur, et j'ai des subalternes, il suffit que je dise, à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, l'autre fait ceci, ceci, ça veut dire qu'il a une autorité parfaite sur les subalternes. Donc, Jésus met l'accent sur le fait que nous aussi, nous devons être sous l'autorité du supérieur qui est Dieu, mais nous devons acquérir une autorité sur les subalternes, qui sont quoi? Qui sont les émotions, qui sont les passions, qui sont les pulsions, qui sont les états d'âme. Mais si on n'a pas acquis cette autorité sur, par le mode de la prière, et c'est le mode de la prière qui nous passe, on peut passer de l'asservissement, de l'esclavage en Égypte vers la terre promise, alors il nous manque le fait que si Dieu vient en nous, et que si, comme le dit Saint Macaire d'Égypte, nous ne régnons pas sur les pâturages du cœur, alors Dieu ne peut pas exercer notre autorité dans le de nos vies parce qu'il n'y a pas la courroie de distribution de relais. C'est-à-dire que nous sommes envahis par les passions et Dieu ne peut rien faire parce que nous sommes nous-mêmes asservis. Donc en fait, ça souligne une chose, c'est que la prière est un mode de libération intérieure. Et donc, nous pratiquons la prière de Jésus pour sortir de l'asservissement au monde, pour sortir de l'asservissement aux passions et aux pulsions, pour devenir libre. Pour devenir libre, la prière est un mode royal pour se libérer de tout asservissement et vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous voyez, tout un chemin. Donc, il ne s'agit pas simplement de venir faire des prières. Il s'agit d'entrer dans la prière et d'acquérir un état de prière. Et c'est cela, tout le cheminement auquel chaque chrétien, chaque baptisé est invité, et c'est là où nous ne pouvons pas nous contenter d'un rapport superficiel à la prière, mais la prière c'est vraiment un processus de libération et un processus de transformation et le chemin par lequel nous pouvons accéder à l'intimité de Dieu en nous. Et maintenant, je vais vous lire une autre, et je vais terminer sur cette notion-là qui est très importante, c'est la prière pour les autres. Et pour la prière pour les autres, je vais prendre référence chez le père Mata El-Meskin. Peut-être certains ne savent pas qui est le père Mata El-Meskin. Le père Mata El-Meskin, c'est un ermite égyptien qui était dans une grotte. Et puis il était dans une grotte, et puis il y a des disciples qui sont venus autour de lui, il avait 12 disciples. Ça rappelle quelqu'un qui avait aussi 12 disciples. Il avait 12 disciples, il était dans une grotte. Voilà. simplement, il avait été pharmacien avant, et puis il a préféré devenir ermite. Et puis, le patriarche d'Alexandrie, en 1969, Cyril VI, est allé le chercher et lui a demandé de venir reconstruire le monastère Saint-Macaire du IVe siècle, qui était sous les sables. Donc il lui dit, est-ce que tu peux venir reconstruire ce monastère? Et donc, par obéissance, de par Matthieu Mesquine, a pris ses 12 disciples, ils sont allés dans la ruine du monastère Saint-Macaire et ils l'ont reconstruit. Maintenant, il y a 130 moines maintenant dans ce monastère. Voilà. Donc moi, j'ai été dans ce monastère pendant 25 ans, une semaine par jour. Parce que pour moi, ça a été ma nourriture et mon ressourcement. Chaque année, pendant 25 ans, je suis allé au monastère Saint-Macaire, donc je connais très bien. Et donc, Père Matthieu Mesquine, c'est un géant dans le même degré que Saint Sophronie. C'est voilà, des références spirituelles. Bon, c'est pas Placide, il avait une grande relation avec le Père Matthieu Mesquine. Donc, il dit, je lis, « Le progrès de notre vie de prière se traduit par l'intimité de notre amour envers Dieu. » C'est ce qu'on a dit précédemment. « La maturité de la prière est le signe manifeste de la maturité de l'amour. » C'est-à-dire qu'en fait, plus on entre dans la prière, plus on entre dans la relation avec Dieu, plus la grâce de l'Esprit Saint va s'exprimer dans notre cœur par l'amour de tous. On ne verra pas d'abord ce qui ne convient pas chez les autres, mais on verra que Dieu est présent dans chacun, donc il y aura un mouvement d'amour pour chacun, ce qui ne nous rend pas naïfs des défauts des autres. Oui, parce que malheureusement, voilà, il y a aussi les défauts. Et donc il dit, la prière est l'occasion pour Dieu de répandre son esprit d'amour dans le cœur de l'homme. La prière est l'occasion pour Dieu. Donc ça veut dire que pendant le temps de la prière, on s'offre à Dieu, on est libéré des pensées, libéré d'emprise du monde, et on est là se disposant à Dieu. Et il dit, la prière est l'occasion pour Dieu de répandre son esprit d'amour dans le cœur de l'homme. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se transformer, puisque l'esprit d'amour va venir féconder notre cœur. Et il dit, les effets de la prière, premièrement, dévoilent le péché, deuxièmement, le condamnent, et troisièmement, le remet en Dieu. Et donc, ça amène tout un chemin de transformation, il dit Père Matthieu Mesquine. Et maintenant, écoutez bien ce que dit Père Matthieu Mesquine dans la suite. L'homme qui a connu Dieu et l'a aimé devient responsable devant Dieu de son frère dont le cœur ne s'est pas encore ouvert à Dieu. Je répète, l'homme qui a connu Dieu et l'a aimé par la prière devient responsable devant Dieu de son frère dont le cœur ne s'est pas encore ouvert à Dieu. C'est ainsi que Dieu atteint les pécheurs égarés loin de lui par la prière de ceux qui l'aiment et sont proches de lui. Donc ça veut dire que quand on prie, on est missionné vis-à-vis de ceux qui sont loin de l'Église. Et que la prière, ce n'est pas une prière uniquement pour nous, mais la prière doit se tourner après vers l'amour du prochain, vers le fait d'être une prière pour les autres. Donc, prière pour nous sanctifier, qui doit être complétée par une prière pour les autres. Et donc, quand on a autour de nous des gens qui sont en détresse, qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, alors le Seigneur nous invite à prier pour cette personne, pour que son esprit d'amour, qu'il a répondu par la prière dans nos cœurs, soit aussi fécond dans le cœur des autres. C'est comme si notre progrès dans la vie de prière nous était accordé, en fait, au profit de nos frères faibles qui ne savent pas prier. Donc, au lieu de juger l'autre en disant « lui, il ne vient pas à l'église, lui, il ne prie pas, lui, machin », c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Hein. Tout le contraire, il dit « tu vas à l'église, tu deviens responsable de ton frère qui ne vient pas à l'église ». Et c'est comme ça, dit Père Matthieu Mesquine, que Dieu atteint ceux qui ne viennent pas à l'église par l'amour de ceux qui prient, qui viennent à l'église, et qui devient ouverture au frère, sollicitation du frère, et qui devient témoignage vis-à-vis de ceux qui ne viennent pas à l'église. Si on fait comme ça, la prière de la paroisse va être remplie bientôt. Donc, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, comme dit l'apôtre Jacques. Ceux qui ont aimé le Christ et qui lui sont fidèles deviennent sur la terre de véritables ambassadeurs du Christ, et nous, les chrétiens, nous devons être ambassadeurs du Christ, par leur prière et leur disposition à se dépenser. Si donc la prière au début de la vie spirituelle semble être nécessaire, puis s'avère être pour ceux qui y progressent essentielle à la vie de l'esprit, elle devient finalement pour ceux qui ont été initiés au mystère de la prière pour les autres une des plus grandes responsabilités que Dieu ait données et confiées aux êtres humains. Ce sera ma conclusion. Voilà. Je trouve très important qu'on ne soit pas dans un repli entre Dieu et moi, mais qu'on soit dans une intimité avec Dieu pour le salut du monde. Pour le salut du monde, dans une ouverture à tous ceux qui sont éloignés de Dieu. Et nous avons à être dans cette prière pour le monde, sur laquelle a tant insisté saint Siloine de la Dose. Il priait pour le monde entier, afin que tous soient sauvés, parce que c'est ça la prière de l'Église, que tous soient sauvés. C'est une prière, on ne peut pas affirmer que tous seront sauvés, mais on peut prier pour que tous soient sauvés, parce que, comme dit saint Siloine de la Dose, l'amour ne supporte pas qu'une seule âme ne se perde. Il dit saint Siloine, on ne peut pas se réjouir qu'il y ait des âmes en enfer. Sinon, on est, dit saint Siloine, étranger au Saint-Esprit. Si on est dans le Saint-Esprit, on ne peut que prier pour le salut de tous. Et c'est ça le fond de la prière, d'être dans l'exercice de la volonté divine. Et comme il est dit dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, c'est ça la volonté divine. Voilà. Maintenant, on peut avoir un petit temps d'échange.
On va commencer avec une question, donc on pourra tous poser des questions. C'est une bonne recette que vous nous avez transmise pour renforcer la prière et avoir quand même l'état dans la prière. De la chanter, donc c'est déjà une bonne chose.
Je vous rejoins parce qu'effectivement je me rends compte que depuis quelques, je pense que ça fait 3-4 ans que j'ai repris un peu chanter en fait, et c'est beaucoup plus facile en fait.
Ouais.
C'est,
ça fait du bien le chant.
Ça fait du bien le chant en fait.
Ça fait du bien le chant. Donc,
voilà. C'est une libération en fait, ça fait taire. Oui.
Ouais, quand on est libéré du mental, ça fait du bien, je sais pas si vous l'avez remarqué,
oui.
Hein. Mais quelquefois les épreuves sont plus douloureuse à cause de l'agitation mentale qu'à cause de l'objectivité de l'épreuve.
Oui.
Donc si on peut arrêter le mental, c'est déjà pas mal.
Oui. Ou au moins le.
Mais, en tout cas, quand on chante, on ne peut pas chanter et être dans l'agitation mentale. Ce n'est pas possible. Donc déjà, le chant nous libère.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres pistes, par exemple, quand on est dans un contexte où on ne peut pas chanter? Parce que comme on essaie de
faire. Au travail, ça va être difficile.
Voilà. Travail ou dans les transports. Dans...
Ça, c'est ça. C'est... Si on chante les stéréotypes dans un bus, ça va.
C'est vrai que c'est un problème. Mais des fois, on veut. Enfin, on essaie d'être dans la prière, même dans un contexte qui ne nous permet pas de chanter.
Oui,
ou de,
c'est
de...
ça.
Et est-ce que peut-être aussi des choses qu'on pourrait faire, comment revenir à la. On se reconcentrer sur la prière.
Mais après, on peut trouver plein d'occasions. Par exemple, on prend le bus, on peut, par exemple, la prière de Jésus, on peut l'emmener partout avec soi. Donc on peut intérieurement dire Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu de moi pécheur, sans bouger les lèvres. On peut bouger la langue à l'intérieur, personne ne s'en rend compte. Et donc, après, elle devient un vecteur de sanctification du monde, disait un moine de l'Église d'Orient, le père Lévi-Gilet. Il disait, on peut sanctifier le monde quand on marche dans la rue, quand on est au bus, et puis, par exemple, on est au travail, mais on est agacé par quelque chose. Alors, on va aux toilettes, par exemple, on marche là et on fait la prière pour prendre un peu de chant, ou aller faire une petite diversion pendant 5 minutes. Donc, on peut trouver des possibilités comme ça, et ça s'appelle faire des percées comme ça. Des percées, c'est-à-dire ne pas cesser enfermé et sclérosé par le monde. Et donc, quand on sent que, on est oppressé là, il faut trouver une percée. Donc, on trouve un moyen pour échapper pendant 5 minutes, être dans la prière. Et avec la grâce, alors peut-être on va voir qu'il faut reprendre les choses d'une autre manière. Moi-même, en ce moment, je vis une épreuve chez moi à Sainte-Croix. Et là, ça fait 3 jours que je suis parti, mais ça fait son effet, c'est-à-dire je suis extrait de là où je suis. Comme je suis dedans, alors j'ai l'impression que je me bute un peu. Et puis, de l'extérieur, je me dis, mais non, les choses ne sont pas si compliquées que ça. En fait, c'est moi qui était tellement prisonnier. J'étais comme, vous savez, comme une mouche qui est prisonnière dans une bulle de verre, là, elle se bute de tous les côtés. Et quand on sort, on dit, ah, mais non, mais les choses ne se présentent pas comme je croyais. Il ne s'agit pas que je sois en révolte, ou je ne sais pas. Il s'agit que je prenne les choses avec beaucoup plus de. Voilà, mais c'est très important. Et la prière, ça fait ça. C'est de mettre à l'écart pour prier, de descendre dans le cœur pour s'abstraire et voir que, comme le disait Épictète au 1er siècle, il disait, les hommes ne sont pas déconcertés par les événements, mais par l'idée qu'ils s'en font. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais combien de fois on a une épreuve, mais ça part tellement vite là, on s'en fait une montagne. Donc en fait, quand on a traversé les ponts, on dit, pourquoi tu t'es agité et mis dans tous ces états à cause de ça? Donc, on a beaucoup redouté toute l'amplification qu'on donne aux choses. Et c'est ça qu'on peut apaiser la prière, éviter qu'on complique les choses avec toute l'agitation mentale qu'on se fait au sujet de ce qui nous arrive. Ça, c'est... Donc si on arrive à faire ça, c'est bien. Comme dit une amie, tout exercice qui n'est pas pratiqué ne produit pas de fruits. C'est-à-dire, c'est en pratiquant qu'on va avoir les fruits. Mais si on ne pratique pas, on n'aura pas les fruits. Après, on dit, ouais, le Seigneur, il ne s'occupe pas de moi. Il n'y a pas de choses qui changent dans ma vie. Ah oui, mais si on ne pratique pas, ça ne marche pas.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points?
Bon. Je ne sais pas ce que vous avez lu.
Merci beaucoup, mon père. Je suis un peu désolé qu'on n'était pas suffisamment nombreux pour profiter. On va essayer de faire profiter aussi par le...
Et après, peut-être, ça va diffuser.
Oui, voilà.
Vous pouvez diffuser le...
On va faire circuler le message avec beaucoup de joie. On va peut-être dire une prière.
On va dire une prière.
Pour la fin.